Bol Audio,
votre radio bolloise.
Retrouvez tous les vendredis une émission qui parle de votre commune.
Des rubriques, des interviews d'habitants et de la musique.
En podcast sur le site de la mairie de Bol.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la 9e émission de Bol Audio. Je vous propose aujourd'hui d'écouter deux autres chapitres du livre de Gladys Constant, L'étendard élevé, lu par Catherine. Juliette, 14 ans, se retrouve à passer ses vacances chez ses grands-parents où elle ne peut même pas choisir ses émissions de télévision. Lui vient alors l'idée d'un cahier de doléances du collégien en 10 points, visant à défaire les mythes entretenus par les adultes au sujet des jeunes. Un bon moment de lecture en perspective. Nous entendrons ensuite l'interview de Florian Gaillac, restaurateur à Bol au Clos des Vignes, qui terminera notre entretien par une délicieuse petite recette, facile et pas chère. La musique sera bien sûr au rendez-vous à la fin de cette émission, avec une chanson bien connue aux multiples interprètes, « La tendresse » de Noël Roux et Hubert Giraud, interprétée ici par Céline. Si vous aussi vous avez envie de témoigner, de lire, de chanter, de donner une info solidaire ou de partager des recettes de cuisine, vous êtes les bienvenus. Contactez Véronique par mail à radioembouchure@gmail.com. Portez-vous bien et bonne écoute.
Idée stupide des parents numéro 2. L'adolescence, c'est vraiment l'âge bête. S'il y a une chose que j'ai du mal à situer dans le temps, peut-être pourrez-vous m'aider. C'est le moment précis où mes parents ont commencé à se regarder en souriant et à soupirer. Que veux-tu ? C'est l'âge bête ? En parlant de moi, bien sûr, comme si je n'étais pas dans la pièce. Pour autant que je m'en souvienne, ils n'agissaient pas encore ainsi lorsque j'étais en 6e. Il arrivait même à maman de m'appeler encore mon bébé. Ils ont dû se passer le mot durant mon année de 5e, ayant systématisé l'usage à mon entrée en 4e. Cette phrase est, malheureusement, le lot commun de tous les enfants. Il s'agit purement d'une stratégie d'évitement, entendons-nous bien, car les parents, face à une attitude qui les bouscule ou les déconcerte, ne vont quand même pas faire l'effort intellectuel de la comprendre. Non, non. Qu'on se le dise, ils sont trop fatigués par leur journée de travail. Alors, ils sortent l'explication toute faite, le prêt à penser, un brin fataliste quand même. C'est l'âge, et tente malgré tout de se rassurer. Ça passera. Bon, je veux bien admettre que si cette phrase permet à des parents de retrouver un peu de complicité en s'associant comme une bande de malfaiteurs dans le dénigrement de leur progéniture, c'est une bonne chose. Mais cette idée n'en est pas moins d'une stupidité crasse. Car, arrêtez-moi surtout si je me trompe, mais aucun collégien sensé ne le fera. Qui est plus intelligent et plus polyvalent qu'un élève ? Permettez-moi, messieurs, dames, au risque de passer pour une sale petite prétentieuse, de vous rappeler que moi, singe savant, je suis capable, votre attention, s'il vous plaît. C'est un exploit qui va se produire devant vos yeux. De parler anglais de 8h à 9h, puis sans transition, espagnol de 9h à 10h. D'enchaîner après 10 minutes de pause sur l'étude détaillée des métaphores et des oxymores dans un sonnet de Baudelaire, puis de résoudre les équations à deux, voire trois inconnues, avant de me lancer dans la dissection d'une pelote issue de la déjection d'une chouette-ulotte pour en analyser les composants ou de découper en deux un rat décongelé pour révéler son système digestif tout en digérant justement le steak haricot vert baigné au chocolat de la cantine avant clou du spectacle, d'enchaîner deux roulades arrière, trois sauts de biche et un équilibre sur un tatami qui sent la chaussette. Interpréter, viens voir les comédiens à la flûte à bec et au bout du compte, rentrer chez moi et me plonger dans la montée des périls en Allemagne et les horreurs de l'Holocauste avant que mes parents, bien attentionnés, ne viennent me souhaiter bonne nuit, faites beaux rêves. Alors, messieurs les papas et mesdames les mamans, Il me semble, au terme de cette prestation pour le moins exceptionnelle, que nous pouvons, nous, merveilleux adolescents, rire bêtement quelques minutes par jour pour alléger un tantinet la pression et vous donner, peut-être, l'illusion satisfaisante que votre intelligence est supérieure à la nôtre. Idée stupide des parents numéro 3. Vous êtes assis toute la journée. Sur la table de chevet de ma mère trône un certain nombre de pots de crème et notamment un tube vert pomme nommé Jouvence de l'abbé Souris, un moine qui en avait marre de lire la Bible et qui a pensé à la souffrance des femmes portant des talons. Dans la pub, une vieille peau rigide se moque de sa fille, belle et fraîche, qui ne suit pas ses conseils, ni pour les hommes, ni pour la danse, ni pour la crème. Je pense personnellement que le bon abbé, s'il avait en plus une relation privilégiée avec son Dieu, aurait pu inventer au passage un antidouleur pour le corps des collégiens. Mes parents croient sottement que la journée d'un élève se résume à poser ses fesses sur une chaise et à recopier ce qui est écrit au tableau. Maman a beau avoir fait un double de mon emploi du temps pour le fixer sur le frigidaire sous un pingouin aimanté qui nous dit bonjour, elle ne semble pas avoir compris en quoi il consiste au juste. C'est pourtant simple, n'est-ce pas? Pourvu d'un sac de 8 kilos à la dernière pesée, que je ne porte que sur une épaule pour ne pas avoir l'air d'une quiche, je me range sur la ligne d'arrivée à 7h55 précisément. Gong! C'est parti pour le bâtiment B. Premier étage durant 1 heure, 9h. Bâtiment C, deuxième étage, puis retour en bâtiment B, deuxième étage, avant de se rendre en bâtiment A, troisième étage. Traverser la cour, monter les marches, longer le couloir en évitant soigneusement de se faire projeter contre le mur par une épaule carrée plus puissante que la nôtre. Se ranger devant une porte, entrer, rester debout, s'asseoir, sortir ses affaires, noter les devoirs en catastrophe parce que ça a déjà sonné, ranger ses affaires, redescendre l'escalier, traverser la cour de nouveau. Emprunter une autre volée d'escalier, se rendre compte brutalement que mince, on est en semaine A et pas en semaine B. On a maths, pas histoire. Faire demi-tour, vite, traverser la cour en sens inverse, au pas de charge. On arrive enfin. Billet de retard, s'il vous plaît. Redescendre les escaliers, courir jusqu'au bureau de la vie scolaire. Puis, muni du précieux petit papier qui nous autorise à retourner en classe, courir, monter les marches 2 à 2, se prendre les pieds dans l'une d'elles, tomber, être hué par ceux qui attendent le prof d'espagnol, se relever l'air de rien, continuer jusqu'à la salle où le cours a maintenant débuté depuis 10 minutes, s'asseoir, sortir ses affaires, semaine à oblige, on n'a pas pris les bonnes, c'est inadmissible, sortez, redescendre, confus, les escaliers jusqu'au bureau de la vie scolaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Entrer dans la salle de permanence, sortir ses affaires, réaliser qu'on a le ventre qui crie famine, les calories ingurgitées le matin, ayant toutes été brûlées quelque part, entre le bâtiment B de la première heure et la salle de permanence. Maman s'étonne parfois que je change de fringue tous les jours. Tu vas pas me dire que tu transpires tant que ça, assise sur ta chaise? Je songe à Astérix et Obélix, quand ils essaient d'obtenir le laissez-passer à 38 dans la maison qui rend fou. Il me semble évident que Goscinny et Uderzo ont plagié la vie des collégiens sans qu'aucun de nous ne touche jamais le moindre droit d'auteur.
Bonjour Florian.
Bonjour.
Florian Gaillac et Stéphanie, vous avez repris l'auberge gourmande de Baule il y a un an et demi, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, oui.
Voilà, alors ça s'appelle le Clos des Vignes hein, maintenant.
Oui, on a voulu donner notre touche à nous et rappeler un peu l'historique de la bâtisse vigneronne. Donc.
Avant de parler de la situation actuelle, est-ce que vous pouvez nous décrire la carte, ce que vous faites dans votre restaurant ?
Donc le but, c'est d'avoir une carte qui change, qui s'adapte aux produits locaux, qui s'adapte aux saisons. Notre philosophie, c'est que c'est l'homme qui s'adapte à la nature et pas le contraire.
Donc j'imagine que vous êtes très à cheval sur le fait de travailler avec les producteurs locaux.
C'est ça, tout à fait, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire avec qui vous travaillez ?
On travaille avec Grégory, des Jardins d'Olivier, donc qui est situé à l'entrée de Beaugency. Donc, il travaille avec pas mal de maraîchers locaux, qui travaille avec Bol Bio, à Bol, qui travaille... Selon chaque saison, il va avoir des fournisseurs différents. Je prends mes pommes de terre, type Belle de Fontenay... Il travaille avec un producteur local, donc voilà, c'est un peu mon maraîcher qui va me chercher des produits un peu partout dans le coin. Et pour le pain, je travaille avec le four à bois à Beaugency, donc avec Franck. Puis après, sinon, à Orléans, je travaille mes jeunes pousses, donc c'est un petit producteur qui s'appelle Damien et qui s'est spécialisé en jeunes pousses architecturales, donc des jeunes pousses de basilic, des jeunes pousses de petits pois. Il y a une vingtaine de variétés, il travaille avec pas mal de personnes actuellement, ils font une Christophile pour les CHR, donc voilà. Il essaie un peu de fournir tous les restaurants qui aiment un peu qui visent un peu l'esthétique de l'assiette.
Enfin, au niveau de la viande et du poisson, vous avez des producteurs?
Alors, tout ce qui est poisson, c'est Rungis. Et tout ce qui est viande, donc ça va être avec une grosse boucherie basée sur Blois, en fait, au niveau de l'hiver. Donc, en fait, ils sont spécialisés dans le gibier. Et ils font les ramassages de gibier à travers les chattes, donc avec tout ce qui est tampons vétérinaires et tout. Parce que bon, les restaurateurs, on peut pas trop s'amuser à aller acheter du gibier nous-mêmes dans les chasses. Hein, c'est pas très légal. Mmh. Au niveau de la santé, d'ailleurs, on le voit actuellement avec ce qui se passe. On essayait déjà d'éviter et on évite encore maintenant. Donc on travaille avec un gros boucher à Blois qui nous fait des viandes françaises quand on peut et ensuite européennes parce qu'on a aussi une politique de prix qui doit pas dépasser certains prix pour que tout le monde puisse venir manger chez nous aussi.
Et pour le vin, ça se passe comment ?
Alors au niveau des vins, on travaille avec des commerciaux qui vont nous dénicher des petites pépites à travers toute la France. On travaille avec beaucoup, on a une grosse carte de Loire. Et après, on essaye petit à petit aussi de se faire une petite carte à Bourgogne, Bordelais, Vallée du Rhône, le Languedoc, parce que c'est ma terre d'origine.
Oui, ça s'entend.
oui. Et du coup, on se déplace aussi dans des salons. Donc, dernièrement, on était à Blois pour un salon sur les vins bio. Donc voilà, on essaye un peu d'aller dénicher un peu ce qu'on peut trouver. Alors, le vin, c'est fabuleux parce que c'est presque infini. On pourrait avoir des caves. Même frustrant, en fait. On aimerait tout avoir.
Oui. Mais c'est vrai qu'on est dans une région où il y a quand même pas mal de choix. On a de la chance.
Ouais,
hein, comme
oui,
ça.
Oui. Alors, on a, oui, il y a la Touraine, il y a Sancerre, il y a... Donc, oui, on est très, très bien lotis avec des vins, avec des particularités. Donc, même moi, qui connaissais peu, à part les grands noms, bien sûr, petit à petit, je découvre moi aussi des spécificités locales.
Est-ce que vous travaillez aussi avec des boulangers du coin pour le pain ?
Oui, avec Franck du four à bois, oui, à Beaugency, oui, qui me fait mon pain tous les jours pour mes clients, qui me fait aussi mes pains spéciaux pour le foie gras, parce qu'on fait notre spécialité à la carte, dans les entrées, c'est le foie gras.
Ouais.
Et après, quand j'ai des idées pour ma carte, j'aime bien avoir justement des personnes qui ont du répondant. Et des fois, j'ai une idée qui va exploser dans ma tête et je vais l'appeler. Je vais dire, Franck, tu peux me faire des mini baguettes toutes petites, en fait, qu'on pourrait tremper. Ça, c'est un peu mon côté, un peu... Je peux avoir une idée à la seconde, donc c'est ce genre de personnes qui eux aussi, de leur côté à eux, ont ce répondant et vont me fournir des produits qu'ils auraient pas eu idée de faire pour les clients. Et voilà, c'est un échange.
Ils peuvent s'adapter à vos improvisations culinaires.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Avant, vous étiez restaurateur ?
Alors, avant d'être au Clos des Vignes, on avait une gérance au restaurant du Golfe de Sully-sur-Loire. On est resté 2 ans. c'est un peu les premiers pas pour devenir, pour avoir son affaire. Et puis, dès qu'on a eu un peu d'économie, on s'est dit, on est bien dans la région, on a envie d'y rester. Maintenant, on aimerait chercher quelque chose. Et puis, on a rencontré la famille Benoît qui avait envie de passer la main. Et nous, on avait envie de reprendre. Donc, on s'est dit, c'est un bon consensus. Et surtout, ouais, ça leur tenait à cœur que ça reste quand même un établissement. Ils ont donné 25 ans pour faire une cuisine de haute qualité. Ça leur tenait à cœur que ça le reste. On essaye humblement de reprendre le flambeau.
Au bout d'un an et demi, ça va, ça marche. Vous êtes satisfait?
Moi, c'est super. On est super contents. Après, bon, bah, il y a les événements qui se passent actuellement. Bon, mais on essaye de prendre le côté positif, même si c'est assez anxiogène vis-à-vis de tout ce qui est, de tout ce qui est annonce. Ça nous permet aussi de faire quelques travaux, au sein de la bâtisse. Donc, on essaye de faire nous-mêmes. Et puis, actuellement, là, on va donner un coup de main pour les asperges. Ça nous fait aussi créer un lien social. Stéphanie va pas mal aider pour des courses, pour des personnes âgées. Donc voilà, ça nous permet aussi de lever la tête du guidon, on va dire. Et ça faisait un an et demi qu'on n'arrêtait pas, en fait. Et ben, on a été forcés à arrêter. Donc on essaye aussi d'aller à la rencontre des gens.
Et justement, par rapport à l'annonce du confinement au mois de mars, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout eu le temps de se retourner. Ça a un peu sidéré tout le monde. Est-ce que de votre côté, vous avez pris ça comment? Est-ce que vous avez tout de suite envisagé une solution entre guillemets de repli? Est-ce que vous avez été extrêmement inquiet tout de suite financièrement, par rapport aux assurances, c'était totalement l'inconnu, en plus, effectivement, de la situation anxiogène de l'épidémie en elle-même?
Ah oui, forcément, oui. Non, mais déjà, nous, dans notre métier, on doit faire preuve d'une grande adaptabilité, déjà, aussi, à chaque service. Hein, donc, chaque service, ça commence, on va vers l'inconnu, hein, c'est parce que les gens vont manger, donc on doit toujours s'adapter. Donc, suite à l'annonce, on s'est adapté de suite. On avait les courses faites pour un petit moment. Et ensuite, financièrement, bon, mais c'était très inquiétant, oui, forcément, oui, on se pose la question. On est un métier, quand on est commerçant, quand on prend 15 jours de vacances, mais c'est 15 jours de chiffre d'affaires qui rentrent pas. Et c'est toujours 15 jours où on a dû faire un peu d'économie pour pouvoir les prendre. Là, on est parti pour 2 mois déjà sûr. Et puis, les prévisions sont pas rassurantes. On parle de juin et j'ai quelques échos de personnes qui sont proches du ministère et qui parlerait de mi-juillet pour les restaurants donc et cafés, donc c'est assez inquiétant. Ouais. Et ça paraît assez injuste aussi parce que ben c'est vrai que la dernière fois j'écoutais un spécialiste en sociologie qui parlait que le bonheur en fait se mesure par rapport aux autres et c'est vrai que si on voit tous les commerces se réouvrir les uns après les autres, on se demande pourquoi pas nous, donc c'est assez inquiétant.
Ouais. Vous prenez ça quand même comme une injustice?
On peut le prendre forcément. Après, on comprend que c'est géré par des personnes qui, je pense, sont très compétentes et prennent les bonnes décisions. J'espère qu'on réouvrira au plus vite et qu'il n'y aura pas trop de casse au niveau des collègues et de tout le métier, de tout le cœur du métier, que les gens prendront encore plaisir de sortir au restaurant. Ça.
J'ai entendu parler, par exemple, de restaurateurs qui peuvent faire de la vente à emporter, par exemple, un jour par semaine, ou vendre du vin, ou voyez des choses un petit peu pour pallier une espèce de béquille, hein, tant bien que mal. C'est sûr que financièrement, ça ne va pas.
C'est possible, certains le font et ceux qui le font très souvent en fait, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
Ouais.
Parce que c'est pas le cœur de notre métier. Notre cœur de métier, on n'est pas traiteur. On peut le faire pour un autre service. Souvent des bons clients, des fois vont me demander est-ce que tu peux me faire un petit gâteau, quelque chose comme ça. Je vais le faire pour un service à des bons clients, mais c'est pas le cœur de mon métier. Je suis pas là pour concurrencer un traiteur, un boucher qui fait des plats emportés ou un pâtissier qui est spécialisé à faire des gâteaux pour les anniversaires. Nous, notre cœur de métier, c'est recevoir des gens chez nous et les accueillir au mieux, leur proposer le meilleur service possible et la meilleure cuisine la plus précise, parce que c'est toujours compliqué de préparer un plat, on ne sait pas comment la personne va le réchauffer chez elle. Nous, on accompagne le client de la commande jusqu'au moment de la dégustation avec la température requise pour le plat, la texture qu'on souhaitait, enfin. Ouais. C'est chaque fois une expérience. Donc, les plats emportés, pourquoi pas, mais dans la finalité, ce sera pas une solution. C'est juste, certains pour pouvoir se payer ou se verser un salaire, parce que beaucoup, quasiment tous mes collègues ne se versent plus de salaire, hein, c'est terminé. Donc,
Juste une petite dernière question sur votre restaurant, vous accueillez combien de couverts?
Alors, on est à 20 couverts, et avant le confinement, on avait agrandi un peu, on avait terminé les travaux, et en fait, on a créé une salle à l'entrée donc pour pouvoir accueillir du monde sur les menus groupes et sur des menus... des repas un peu plus bon enfant, donc là je laisserai les gens découvrir cette nouvelle formule sur le site internet qu'on est en train de préparer. Du coup, vu qu'on a beaucoup de temps, on est en train de préparer notre site internet donc pour toutes nos offres, offres séminaires, offres menu groupe.
Pour l'instant, vous avez un Facebook hein, quand même qui est actif.
Donc on a un Facebook qui est très actif avec une page Instagram qui l'est tout autant. On est sur 20 couverts donc dans la salle à manger et ensuite pour les menus groupes on peut monter une quarantaine voire 50. Je suis une salle de séminaire à l'étage donc avec un rétroprojecteur pour les entreprises qui souhaiteraient faire un petit séminaire 16 personnes donc c'est pas des gros séminaires donc voilà donc c'est une salle qu'on met à disposition des entreprises qui est offerte si les gens viennent manger le midi donc voilà.
Justement, si on est dans le coin et qu'on travaille par exemple à côté, qu'on veut manger vite fait un petit truc sur le pouce, vous avez une petite formule du midi?
Alors, on n'a pas de formule du midi à proprement parler parce que c'est pas forcément ce que les gens recherchaient chez nous quand ils venaient. On avait testé pendant 6 mois. Mm-hmm. Ça n'a pas forcément marché, donc on avait décidé d'arrêter. Et c'est justement sur ça en fait qu'on va se tourner à travers notre salle d'entrée en fait. Ce sera plus des tables en fait. Souvent les entreprises qui veulent inviter leurs collaborateurs pour un petit repas cohésion ou les associations aussi ou des fois des personnes âgées, des voisins, enfin plein de personnes qui ont envie de faire un petit. On aura une petite formule à 15 € en fait le midi et le soir en semaine avec des produits frais, locaux, cuisinés. Ça on en reparlera plus tard, mais oui, c'est un peu notre cheval de bataille pour cet après-confinement, déconfinement. On a le temps d'y repenser, donc on essaye toujours d'avancer. Une entreprise, ça se repense tous les ans, on essaye toujours de trouver des nouvelles choses.
Bah, en attendant de venir tester vos plats qui ont l'air très délicieux, je vous propose, c'est vous qui allez nous proposer une recette à faire. Oui. Vous m'avez dit que c'était un pickles d'asperges vertes, c'est ça?
Voilà, c'est ça, oui.
Alors, on vous écoute.
L'idée était de préparer donc, ce pickles d'asperges vertes pour aider un peu nos producteurs locaux qui ont besoin de vendre leur production là, cette année. Parce que tout le monde est un peu embêté avec ce confinement. Bah, il va falloir aider, consommer local, consommer du bon, du frais. Donc, si vous n'avez pas d'idée, que vous avez acheté beaucoup d'asperges vertes, parce qu'il y avait une petite promotion, votre marché vous en a mis 1 kilo de plus, alors que vous en vouliez qu'un kilo, et ben, l'idée, en fait, c'est de préparer un petit pickle, si vous avez des petits pots le parfait, ou des petits pots à confiture pour pasteuriser. En fait, l'idée pour 500 grammes d'asperges vertes, donc les petites fingers que vous n'avez pas besoin d'éplucher, vous allez les tailler en biseau à cru, les préparer en fait à côté donc un petit mélange dans une casserole donc 300 grammes de vinaigre de cidre, 100 grammes d'eau, 50 grammes de sucre roux et quelques feuilles de laurier, de thym. Donc faites bouillir ça. Quand ça bout, vous le mettez de côté. Vous versez vos petites asperges vertes en biseau donc pour le parfait avec des petits oignons rouges en lamelles, c'est toujours sympa dans tout ce qui est crudité, les oignons rouges. Vous y mettez après si vous avez des petites carottes nouvelles ou après c'est vous qui voyez c'est toujours l'avantage des pickles c'est qu'on y met un peu ce qui nous reste dans le frigo et qu'on savait pas quoi en faire. Donc vous versez tout ça dans vos pots le parfait, vous versez votre marinade, vinaigre de cidre, eau, sucre roux, thym, laurier par-dessus, à couvert. Vous refermez donc avec vos élastiques donc pour pasteuriser tout ça. Vous refermez bien et vous les mettez à l'envers. Vous les laissez refroidir tranquillement à température ambiante. Et ensuite vous les oubliez à moi dans votre cave ou si vous n'avez pas de cave à l'abri de la chaleur, de la lumière. Et puis vous réouvrez ça un soir en apéritif avec des amis au lieu de sortir chips et cacahuètes, et bien vous sortez des petits pickles d'asperges vertes et puis vous aurez aidé un agriculteur et vous ferez plaisir à vos amis.
Une fois que c'est ouvert, on peut les conserver longtemps au frigo?
Les pickles, c'est vraiment des marinades anciennes, hein, comme on conservait avant grâce à la salaison, on conservait aussi dans le vinaigre. Donc vous avez du vinaigre et du sucre qui permettent de conserver vos aliments. Une fois ouvert, même une semaine dans le frigo, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de problème.
Après, il faut, l'idée, c'est de le faire dans des petits pots individuels parce que fermé, vous allez le garder même un an.
Oui. Alors, est-ce que ce sont les pickles, est-ce qu'on peut les utiliser pour agrémenter soit un plat, soit, je sais pas.
Ah oui, vous. Ouais. Alors, un petit truc sympa, par exemple, vous allez chez votre boucher, vous demandez, vous faites tailler des petites tranches de carpaccio de bœuf. Et puis avec un petit peu de parmesan, vos pickles d'asperges vertes par-dessus, avec la petite marinade au pinceau pour donner un peu de goût et de piquant à votre bœuf. Et puis voilà, c'est magique, un petit peu de roquette parce que ça donne un peu de puissance à votre plat. Et puis voilà.
Eh bien écoutez, c'est parfait, vous m'avez ouvert l'appétit. Merci Florian.
Super alors.
Bolodio, votre radio bolloise.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas.
Un grand merci à tous les participants de cette émission. À bientôt à la radio.